Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, c'est le supplément SmackDown, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Yerem et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Yerem, salut tout le monde. Ah, c'est... ton intro m'avait manqué, ça fait plaisir.
T'as vu, je l'ai un petit peu adapté parce que je vais mettre aussi le slogan, le podcast qui transpire le catch, dont nous sommes très fiers, hein, qui va rythmer cette année 2018, l'année de Rousseff évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour te souhaiter une joyeuse Rousseff Year, puisque je n'étais pas là la semaine dernière.
C'est vrai, écoute, meilleurs voeux pour cette année rousseffienne à toi aussi.
Merci, et d'ailleurs... j'ai oublié de faire quelque chose que j'avais fait l'année dernière. J'ai oublié de te demander si tu avais eu des cadeaux de catch à Noël sous le sapin.
Tu me l'avais pas demandé pour le catch-up de Noël, peut-être. Non, toujours pas. Pas de
des étrennes
de,
alors. Pour les étrennes.
pas de cadeau catchesque sous le sapin.
De toute façon, le gros cadeau, il est dans quoi là, 80 jours. Tu comptes les jours, non?
Je compte les jours, je coche.
La route de Giscal, la route de catch-up pour WrestleMania, on vous tient au courant, on va vous tenir au courant un petit peu de nos préparations, là, hein, pouvoir ensemble pouvoir vous partager cette expérience ultime, hein, du fan de catch qui est d'aller assister au plus grand événement de catch, bien devant ces Japonais dont nos copains vous ont parlé. Ceci dit, j'ai regardé la Wrestle Kingdom, et toi aussi, je crois bien.
Absolument.
Et c'était quand même un bien beau spectacle.
Très sympathique, c'était une belle expérience.
Oui, le vrai spectacle, il est du côté du show bleu. Le show bleu, car dans cet épisode de WWE SmackDown, la chèvre book n'importe comment. Victor et Connor vengent leurs meilleurs amis. Mojo Rawley se venge de son meilleur ami. Chad Gable et Shelton Benjamin veulent libérer les ceintures tag team. Et le Yep Movement fait le main event. René Young qui n'a visiblement pas apprécié que je la nomine dans la catégorie Ed Sheeran. Des gens qu'on nous met dans le gosier, qui nous insupportent le plus. Elle accueille AJ Styles dans un joli fauteuil d'interview au milieu du ring. Et elle lui demande au champion de partager un petit peu son ressenti sur le match au Rumble, hein, qui aura lieu, puisque AJ Styles va affronter Kevin Owens et Sami Zayn dans un handicap match pour le titre. Alors, il compte bien leur mettre une fessée, hein, bien dure et bien franche, aux deux Canadiens. Il sait qu'il faudra par contre le faire vite, parce qu'évidemment, hein, 2-1, au bout de 20 minutes, la fraîcheur des partenaires va se faire ressentir. Après, René Young insiste, un peu beaucoup d'ailleurs, sur qu'est-ce que tu penses de Daniel Bryan et de Shane McMahon, de leur comportement, etc. Donc voilà, il dit que lui, grosso modo, il cherche pas trop à savoir, les décisions qui sont prises sont pas très justes, mais bon, c'est Gestal, le comportement du champion, hein, c'est pas nouveau, on le sait, hein, Gestal, qu'il soit heel ou face, ne recule devant aucun challenge. Kevin Owens, Sami Zayn, leur musique retentit, ils débarquent. Et alors là, il fait un truc assez drôle, je n'ai pas tout noté, mais il dit « Ouais, AJ Styles, tu te fais appeler le phénoménal, mais tu devrais plutôt dorénavant te faire appeler le regretful one. » Et puis il en sort 2-3 autres comme ça.
J'ai oublié. Je les ai plus, en effet.
C'était plutôt bien vu. Et ils annoncent qu'ils seront donc, à la sortie du Royal Rumble, les premiers co-WWE Champions. Et ça rigole pas, effectivement, on a déjà eu, alors je ne sais pas, mais on a déjà eu des co-championnes, souviens-toi, avec, c'était Madame Undertaker. Et,
c'est ce que j'allais dire, voilà.
Et Layla, et donc, comment elle s'appelait, parce qu'elle va pas être contente si je l'appelle Madame Undertaker, mais...
Michelle McCool,
le nom le plus cool du monde, qui était co-championne. Du coup, là, effectivement, on aurait, à ma connaissance, une première, en tout cas pour ce titre-là.
Ouais, c'est une question qu'on se posait avec l'amiral la semaine dernière. C'est vrai que je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse.
Je débarque, je n'ai pas plus la réponse. Donc comme ça, on est beau. dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous nous rejoignez sur le chat de YouTube en direct, à nous partager vos trouvailles Wikipédia sur le sujet. Yep, yep, yep. Hein, ça, c'est la nouvelle catchphrase de l'ami Sami Zayn. Il n'en faut pas plus, hein. Quand on dit trois fois yep, qu'est-ce qui se passe? On invoque qui? Qui c'est qu'on invoque?
Bah, on invoque Shane McMahon,
On invoque
non?
Shane McMahon, évidemment. Un Shane McMahon
Le
apparaît.
Beetlejuice de
C'est
SmackDown.
ça, le
Ouais.
Beetlejuice ou le Pokémon de SmackDown, c'est selon ce que vous voulez. What's up, Georgia? Même s'ils sont pas Georgia, on le verra un peu plus tard d'ailleurs. Il a bien du mal à comprendre les motivations de Daniel Bryan, hein, nous révèle, enfin, nous dit Shane McMahon, mais il back up hein, son GM. Il accepte cette décision pour le Rumble de ce match en 2 contre 1. Mais hors de question de laisser ces Yep Clowns faire un peu faire le bordel tous les soirs. Et du coup, on nous book le main event. Ce sera un autre handicap match puisque Kevin Owens et Sami Zayn affronteront Shinsuke Nakamura, Randy Orton et AJ Styles dans un 3 contre 2. Le main event est bouclé. Qu'as-tu pensé de cette introduction?
Bah écoute, j'ai pas mal aimé cette intro cette semaine. Je trouve que les développements sont assez sympas. Alors déjà, la petite interview, bon, rarement fan pourtant des interviews un peu comme ça, là, dans le ring, de signer Renee Young, ou ça peut être n'importe qui, elles sont interchangeables dans ces cas-là. Mais je trouvais que Renee Young était assez marrante dans ce côté un peu, un peu presse à scandale, à essayer toujours de ramener le débat sur des questions un peu politique là, et à chercher le bon mot un petit peu de son interviewé, tu sais, genre, mais oui, mais vous n'avez pas un truc à dire quand même, parce que moi, tu sais, moi faut que je fasse mes gros titres, hein, donc vous avez pas une saloperie à balancer un peu sur donc AJ Styles a habilement, avec sa langue de bois phénoménale, esquivé tout ça. Donc bon, voilà, je trouvais que c'était pas trop mal comme intro. Et puis bon, bah, après toujours le cirque du Yep Movement là, je trouve qu'ils sont détestables à souhait, à vraiment de bonnes têtes à claque, ils maîtrisent bien le truc. Ils tuent assez bien leur pop quand même, je trouve, dans leur promo, les deux là. Donc ce qui prouve quand même que c'est assez efficace. Et puis bah, après, évidemment, comme tu l'as dit, l'arrivée de Shane. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans l'intervention de Shane McMahon, c'est que
Dis-nous.
Je trouve qu'on retrouve un peu de sens au niveau des. Alors, il y en a qui aiment pas, il y en a qui trouvent que c'est difficile à lire, que ça prend trop de temps. Moi, j'aime bien justement cette lente progression dans l'histoire au niveau des personnages, et celle de Shane qui finalement, comme tu l'as dit, il back up son GM. Mais en fait, surtout, ce que tu ressens à travers de ça, c'est qu'au-delà au-delà de le soutenir, en tout cas, s'il ne le soutient pas totalement, il ne le dédie pas, en fait, il ne le condamne pas. Et c'est ça qui est important, c'est que il reprend un petit peu, je trouve, une posture de commissionneur, à savoir que, écoute, c'est mon GM. Le GM, normalement, dans la hiérarchie, c'est censé vraiment être son bras armé opérationnel, quoi.
C'est
C'est
ça.
lui qui mène le show. Donc le truc, c'est que si jamais il le contredit, si jamais il annule une des décisions de Daniel Bryan,
Il
ou
le
s'il va,
ouais.
ben il le dédie et il le décrédibilise dans sa fonction. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Enfin, soit il le vire, soit c'est terminé. Donc d'une certaine manière, il est obligé de le soutenir, ou en tout cas de ne pas le contredire. Parce que il se dit, bon, écoute, bon, ok, je suis commissionnaire, c'est le GM, il va falloir que je comprenne un peu ce qu'il a dans la tête, mais en attendant, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il dit parce que c'est mon GM. Donc je trouve que c'est pas trop mal parce que du coup, il reprend un peu de recul, il reprend un peu le costume qu'il est censé endosser. Et dans ce sens-là, il reprend un peu une posture face qu'il n'avait pas forcément avec sa vendetta et tout, machin, qu'il n'avait pas trop par le passé. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà. Là, on est dans une dynamique où Shane est en train de se rendre compte qu'il a peut-être un vrai souci de managérial à gérer, mais que pour le moment, la meilleure façon de le faire, c'est bon, bah, ok, et on le verra après. Il y aura des segments backstage qui seront assez intéressants. C'est un peu le let's agree to disagree. On se serre la main. Vas-y, fais ton affaire, on va voir où est-ce que ça nous mène, mais attention. Voilà. Donc j'ai plutôt bien aimé ça pour ça. C'est voilà, Shane, peut-être un peu moins tête brûlée, et puis en même temps, il se permet, voilà, de jouer un petit peu au jeu de Daniel Bryan en bookant ce main event, qui fait plaisir à son champion, qui fait plaisir à la foule. Donc voilà, plutôt efficace, moi, pour moi. J'ai
En
bien aimé.
fait, on verra un peu plus tard. C'est vraiment les montagnes russes, les interactions entre Shane McMahon et Daniel Bryan. On en reparlera justement lors de cette séquence backstage. Moi, en tout cas, celle-ci, je l'ai bien aimée. Je te rejoins complètement. J'étais un peu moins fan de la partie AJ Styles Renee Young. AJ Styles,
Ouais, c'est pas
quand il
extra.
joue la langue de bois, il savait pas trop. Ça tirait un petit peu en longueur.
Peut-être un peu plat. Ouais.
Voilà, c'était un petit peu plat. Ouais. C'était un petit peu plat, un petit peu forcé. Mais bon, une bonne entrée en matière malgré tout pour booker un bien beau main event.
Ouais.
Mais en attendant, on va devoir se farcir la division féminine. Et je sais que ça vous fait plaisir, vous qui nous écoutez, vous qui nous
Falloir créer
regardez.
un jingle. Ouais.
Non, non, bah déjà qu'on a abandonné le jingle du Jobber World, alors
Ouais.
est-ce qu'elle mérite vraiment qu'on perde du temps à choper des musiques libres de droit rien que pour elle? Je ne suis pas certain. D'ailleurs, c'est la musique de Becky Lynch
Becky.
qui s'enclenche puisqu'elle a fait son retour donc la semaine dernière. Elle a attendu que je ne sois pas là pour
Et oui.
revenir. Bravo Becky. J'espère que elle a tourné quoi dans son film avec le Miz, hein, c'est ça? Oui, elle était partie.
C'est ouais.
Voilà.
C'était The Marine ou c'était autre chose?
C'était
Non,
The
elle joue pas.
Marine, c'est The
Si?
Marine.
Je sais pas si elle joue dans The Marine.
Si,
Ouais.
je crois qu'elle joue dans The Marine, tout comme elle a
Marine 6.
joué dans la série Vikings. Tout comme Edge.
Edge.
Ouais.
Ouais, Edge.
Donc voilà, on a des stars multimédia, cross-média. Mais Becky, elle n'est pas venue forcément tordre dans tous les sens des médias. Elle est venue tordre dans tous les sens des catcheuses. Et elle met à mal Ruby Riott, qui est son adversaire du soir, en la balançant dans tous les sens, en la tordant dans tous les autres sens, tout en provoquant le Riot Squad. Ça y est, ils se sont mis raccord, hein, fini les t-shirts Leaf Squad et autres
Ouais.
débilités.
Ils
Voilà,
ont trouvé un petit
elles
t-shirt.
sont un clan, mince quand même. Ruby Riott reprend la main dans une longue séquence de câlins bien serrés, mais les coups de poing de la rouquine mettent son adversaire à terre. Elle place le disarmeur pour la victoire. Riot Squad, c'est plus faible que toi. C'est pas mal, tu te souviens,
C'est ça,
Sega?
c'est ça. Ouais. C'est gars, c'est plus fort que toi. Là, c'est l'inverse.
Ouais. À noter que ringside du côté des gentils, il y avait Charlotte et Naomi qui sont juste venus faire les cheerleaders.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, voilà. Hein.
Ouais, voilà. On continue le petit copier-coller de Raw hein, cette semaine. Absolution a tapé sur le bank statement de Becky Lynch, de Becky Lynch, de Sacha Banks, pardon.
Bah, ça en dit beaucoup, ce lapsus.
Oui. Et les gentils du coup avaient enfin eu un peu de vengeance et avaient soumis les méchantes. Bah, qu'est-ce qu'on va faire à SmackDown? Bah, du coup, on va donner un petit peu de vengeance aux gentils et on va faire taper la leader du Riot Squad. Après tout, pourquoi pas? Donc moi, ça me confirme dans ma position qui est que du coup, bah, j'en ai rien à faire du Riot Squad. Elles me paraissent pas comme très dangereuses. La semaine dernière, elles s'étaient fait chasser assez prestement justement par le trio Charlotte, Naomi, Becky Lynch. Cette semaine, la leader se fait soumettre. Sans trop de difficultés, j'ai trouvé. Donc, bah, écoute, du coup, voilà. Et d'ailleurs, on apprendra, je crois, un peu plus tard que, bah, du coup, les méchantes pour se venger, les défis en 3v3 pour la semaine prochaine. Donc, bon, bah, comme ça, on soldera peut-être cette affaire une bonne fois pour toutes. Mais ouais, c'est pas. Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment, d'une semaine à l'autre, c'est un copier-coller total. Alors, soit c'est un troll énorme, soit ils ont vraiment un truc de prévu, je sais pas, pour le Royal Rumble, une sorte d'alliance un peu méta, je sais pas. Mais bon, en attendant, moi, ça m'intéresse pas trop.
Ouais, ou un défi méta, enfin justement, une rivalité méta entre les deux clans, les deux plus gros clans féminins de ces 10 dernières années. Non,
Ça.
ridicule, hein, parce que le pire dans tout ça, c'est... Alors, effectivement, ça fait flop ce clan de méchantes ridicules, le Riot Squad, mais en plus, ça dessert totalement les faces qui n'ont font pas... preuve de bravoure en les vainquant, hein, en gagnant face à elle. Donc c'est,
Ouais, tu vois, ça fait
enfin,
plaisir de voir Becky Lynch gagner, mais j'ai pas eu
ouais,
le
mais voilà,
sentiment
enfin,
qu'elle ait décroché un truc de ouf, quoi.
Becky Lynch, elle gagne contre le Riot Squad et contre James Ellsworth, donc il y a encore du chemin à parcourir, hein. De toute façon, c'est pas que Becky Lynch, hein. C'est évidemment, c'est tout le roster, à part se faire des gros câlins. En plus, c'est toujours aussi ridicule, les filles. Du moment que tu es une face qui s'allie le temps d'un tag team match avec d'autres faces, tu te dois de faire des gros hugs et des gros câlins avant que le match commence.
Mais c'est important.
C'est important, voilà, enfin, c'est toujours aussi ridicule. On a une autre vidéo un peu plus tard de Becky qui signe un autographe à un vieux pervers à l'extérieur avant de découvrir qu'il s'agit de son partenaire pour le Mixed Match Challenge. Ce sera
Ah
donc
oui, ça
Sami
c'était très
Zayn.
très bien ça.
Ouais. Alors je me suis dit que ce serait peut-être une équipe de remplacement au cas où il arrive des bricoles.
Ah bon? Ouais. Bah non, ils sont annoncés dans le. Comment ça? Ils sont dans la line-up. Ça y est, hein, d'ailleurs, c'est fixé. Là, toutes les équipes ont été annoncées.
Ah, d'accord. Je crois que ce serait une team de remplacement. Que du coup, ce serait la team route secours.
Il y en a 6 de C'était juste pour caler ta vanne, c'est ouais, tout en fait. Hein.
Et là, j'ai bien vu que je t'avais lancé sur un truc. Oh, mais non, ils sont prévus, ils sont là, regarde, ils sont B4 là.
Ah ouais, c'est dans la colonne là, tac, hop, je prends mon tableur des équipes.
Oh, voilà. Fuck le KFAM hein, pour ce Mix Match Challenge quand même, parce que bon. Allez,
oh, oui, bah, de toute façon, c'est pas le but, je pense.
Hein. Non, c'est pas le but, tu vas regarder?
Ouais, je pense que je vais regarder parce que je trouve qu'il y a plein d'équipes qui sont vraiment top.
Ah ouais.
Donc j'ai très très hâte de regarder. Et puis franchement, je pense que ça va être un truc qui va être vachement bon enfant avec probablement des bons matchs et des bonnes idées. Et je suis sûr que c'est même pour eux, en plus, c'est une bête. Enfin, ce tournoi, c'est une super occasion pour eux de sortir un peu du train-train, de leur alignement, de leurs histoires, pour juste s'amuser un peu entre eux. Donc je pense que ça va être très inoffensif et super fun à suivre. Donc je vais regarder. Ouais.
Ouais. Et puis on pouvait voter pour savoir qui serait le partenaire de Carmella parmi les membres du New Day.
Ce sera Biggie.
Ce sera Biggie, Carmella qui a toujours sa mallette et qui a toujours son joli body. Voilà, elle a ses fans, sans aucun doute. Bon, on attaque l'autre division, celle qui nous fait vraiment plaisir, la division Tag Team, puisque ce soir nous avons deux matchs, et oui, deux matchs. The Ascension qui affronte les Bludgeon Brothers, Connor et Victor sont motivés à l'idée de venger leurs meilleurs amis, donc Fandango et Tyler Breeze. Ils foncent sur leurs adversaires, mais la grosse botte de Luke Harper calme leurs ardeurs, et c'est le pauvre Connor qui en fera les frais lors d'une rapide et violente séquence qu'il envoie au tapis, et Victor subira le même sort. Je suis toujours pas sûr des noms à chaque fois.
Non, je suis pas sûr.
C'était pas mal ce petit squash, parce que j'ai bien aimé la surmotivation des The Ascension qui, l'espace de 5 secondes, saute tous les deux sur Luke Harper. C'était pas mal. Puis à la fin,
c'était pas mal, mais en fait, c'est le problème de. C'était ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est que moi, je suis très content du squash là, de cette semaine. Je trouvais qu'il était bien exécuté, il était bien foutu. Mais en fait, il y avait. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé. Et ça confirme en fait les critiques qu'on a vues la semaine dernière avec l'amiral, disant que en fait, le Bludgeon Brothers avait déjà éclaté The Ascension en fait la semaine dernière. Quasiment en leur soufflant dessus quoi, en 2 secondes, et c'est d'autant plus dommage du coup. C'est ce qu'on avait dit, ça aurait été pas mal que The Ascension donne l'impression la semaine dernière en intervenant à la fin du match contre Brizango d'avoir potentiellement une petite chance de les bouger, ce qui aurait donné un peu de suspense et d'enjeu à ce match là et peut-être plus d'impact au squash de cette semaine, alors que là cette semaine on était quasiment sûr qu'ils allaient se faire retourner. Alors ouais, le petit côté super vindicatif au début là, ils ont essayé de les prendre par derrière. C'était marrant, mais au final, on savait déjà ce qui allait se passer. Mais écoute, Bludgeon Brothers continue son bonhomme de chemin. Et ce qu'on se disait aussi la semaine dernière, ça confirme encore, là, ils sont tellement impressionnants qu'il y a un moment ou un autre, avec la propension à SmackDown de balancer des title shots dans tous les sens. Enfin, genre là, comment tu veux ne pas les envoyer vers les champions bientôt? Ça va être difficile de justifier qu'ils tournent en rond pendant très longtemps parce qu'ils sont tellement forts. Donc c'est un peu le souci, ils vont trop vite, moi je trouve.
Ouais, tu voudrais leur envoyer des jobbers encore?
Bah, le truc c'est qu'en fait ils ont écrabouillé toute la low card de SmackDown en 2 secondes. Ce qui fait que en fait maintenant si on veut les occuper, il y a presque plus qu'une seule direction à prendre, c'est de regarder au-dessus et de regarder les ceintures en fait, parce que
On manque de profondeur dans la division tag team maintenant. Voilà, bah non, autre chose. Envoyez-nous les revival, voilà, ils savent pas comment faire à Raw, qui viennent jobber.
Vous 2 équipes par semaine, alors du coup, bah oui, ça va vite quand même.
Ça va vite, ouais. Effectivement. Écoute, tout va se dénouer à l'issue du Rumble, hein. On le verra juste après ça. On en termine avec cette histoire de la fashion popo, puisque ils affrontaient Rusev Day, voilà, probablement deux des teams les plus over, même si beaucoup de teams sont over en fait à SmackDown. D'ailleurs, je remets un petit tacle là à la team Catch-Up Pro qui disait que la division tag team, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de storyline. Messieurs, c'est faux, voilà. Comme
voilà,
dirait
tout simplement.
C'est un célèbre youtubeur, c'est faux. preuve en est, puisque la Fashion Popo n'est pas venue faire de la figuration ce soir, ils tiennent la barre face au Rusev Day et parviennent même à surprendre Rusev dans un petit paquet et à obtenir la victoire. Rusev ne l'a pas vu venir, il est déçu, les gens commencent à s'attacher, si en plus on les fait perdre comme ça, les gens vont s'attacher à eux. Est-ce qu'on prend la bonne direction avec le Rusev Day et Brisango, première victoire, ça fait plaisir depuis un bout de temps.
Ouais, très bizarre cette victoire. Moi, bon, le match, j'ai trouvé assez cool. Ça faisait plaisir, toujours plaisir de voir Tyler Breeze et Fandango, parce que je trouve que c'est vraiment une super équipe et ils avaient pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer dans le ring depuis un moment. Donc, d'avoir 5-6 minutes d'eux, c'était cool. Mais ouais, je suis très perplexe du résultat parce que. On a l'impression d'être face à une erreur de timing énorme, quoi. En fait, tu as une équipe qui est en train d'exploser et qui était en feutre contre le New Day, alors qu'il y a une équipe qui, bon, bah, qui nous a fait mourir de rire, qui nous a fait mourir de rire toute l'année dernière, mais qui bon, bah, voilà, ne brillait peut-être pas forcément par son catch et on avait l'impression que le soufflet était un peu en train de retomber. Et finalement, c'est eux qui battent le Rusev Day. Donc, très bizarre ce résultat. En fait, je sais pas trop à qui ça sert. Cette affaire, parce que j'ai des doutes sur le fait que le Fashion Police est vraiment, il y a vraiment des plans pour eux énormes, ou alors je me trompe, hein. Donc c'est vrai que le timing est difficile à comprendre. Bon, après, je pense pas que ce soit très dommageable pour la hype Rusev Day qui, quoi qu'il arrive, existe, mais voilà, j'ai pas trop compris le délire, quoi.
Ouais, non, le timing est dégueulasse, on est d'accord. Hein, là, franchement, les mecs, c'est pas possible. La latence de 6 mois, là, comme ça, c'est difficile. Ouais, effectivement, à part éventuellement apporter encore un peu plus de sympathie au Rusev Day qui n'avait pas besoin d'une défaite pour en avoir encore plus, mais bon, pourquoi pas. La Fashion Popo, quoi, ils vont les renvoyer dans les pattes de Bludgeon Brothers avec.
Bah, je sais pas, ils se sont déjà fait écrabouiller deux
Ouais, je
fois,
sais bien,
donc
non, mais j'essaie de lire dans l'esprit
ouais, je
torturé
veux
et
pas
malade
trop.
des bookers de la WWE. Donc on a des belles storylines, mais là, effectivement, des fois, les décisions de booking sont un petit peu discutables. On remonte d'un cran dans la division tag team, puisque ce sont Gable et Benjamin qui débarquent au micro. Gable n'est pas content. Il doute qu'on sache vraiment ce que ça coûte d'être un winner. Il s'adresse au public, hein, il les prend à partie. Tous les sacrifices quand on est catcheur, quand on est des stars comme Gable et Benjamin. Benjamin, justement, qui les rassure. C'est pas parce que. Alors là, on revient à cette histoire de Georgia. C'est pas parce que l'université d'Alabama a gagné le championnat universitaire de foot qu'ils sont des winners, parce qu'effectivement, ils ont fait la remontada à l'université d'Alabama en allant battre Georgia qui était qui avait le match en main. Eux, ce sont des spectateurs, ils se contentent d'être assis dans leur canapé avachi, alors que l'équipe de Georgia s'est fait voler par l'arbitre. Comme qui? Eh ben comme eux, comme nous, comme Gable et Benjamin. Voilà, ramène ta fraise. Ils disent qu'ils n'ont pas perdu contre les Usos, mais contre un instant replay. Et là, il s'adresse à l'arbitre, il fait « Generic referee number two, come in ». Ça, c'était très drôle, quoi. Il demande l'arbitre de ramener sa fraise, qu'on discute. Ça, j'ai trouvé vraiment bien foutu. Et Daniel Bryan qui débarque à la place pour expliquer difficilement, parce qu'une fois de plus, on tient un argumentaire qui dit qu'en gros, ils ont raison, mais que la décision tient, où tout s'est passé dans les règles, d'après lui. La décision d'un arbitre, ça tient. Quand un arbitre prend une décision, c'est terminé. Sauf que, justement, ce qui s'est passé, c'est que le premier arbitre, la décision était la victoire de l'American Alpha 2. Il se mange ensuite une grosse volée de répliques là, de la part de Gable et Benjamin. Gable qui est monté là sur ressort. Pas convaincu de l'argumentaire du GM, bien taquin d'ailleurs, ils vont le chercher, ils jouent au jeu du Dr. Gable là, où il parle à Daniel Bryan comme si c'était un petit enfant, dis-nous ce que tu ressens, enfin Benjamin demande à Gable de partager ce qu'il ressent, etc. Il demande alors à la fin, est-ce qu'il aurait fallu qu'on batte les Usos deux fois dans la soirée pour obtenir les titres? Ding! Le visage de Daniel Bryan s'illumine au Royal Rumble, ils iront affronter les Usos dans un 2 out 3 falls match, donc un match où il faut remporter 2 victoires, 2 manches sur 3. Écoute, c'était plutôt bien booké là, du coup là cette petite stipulation, et surtout quelle promo de Gable, je me souviens encore de l'amiral qui nous disait que
Non,
Gable est
non, pas de
le pas de
charisme.
charisme, on s'est pas tiré une promo. Alors peut-être que l'amiral ne regardait pas Talking Smack.
Sans doute, sans
Sans
doute.
doute, on le pardonnera donc, mais là, quel boulot de Gable, et surtout, on voyait vraiment que Daniel Bryan, il kiffait quoi, parce qu'il l'adore, Il adore
Ah
Jack
ouais, je
Gable.
pense qu'il s'amusait beaucoup en effet sur cette promo. Ouais, bah, moi j'ai trouvé la promo de Gable top. Il a c'était une promo c'était une belle promo pour lui en milieu d'émission comme ça et tout longue en plus. Donc je pense que c'était assez important. Il a plutôt
Avec
géré.
le t-shirt hashtag Free the Titles.
Free the Tag Titles. J'aime bien parce que c'était leur première vraie promo heel un petit peu hein, qui vraiment actaient vraiment leur alignement à cette équipe. Ils sont venus se plaindre, taunter le public, trasher leurs adversaires et tout. Donc là, clairement, maintenant, il n'y a plus de doute parce que avant, c'était un peu voilà l'équipe un peu rigolard, belliqueuse, qui essayait de faire son trou, mais bon, plus drôle qu'autre chose. Et puis avec un petit côté sympathique, surtout qu'ils sont très impressionnants dans le ring. Donc c'est
Ouais, et puis
toujours.
ils étaient toujours en réponse aux Usos, par
Ouais,
exemple, toi.
c'est ça,
Ils avaient
voilà.
pas, ça venait jamais d'eux. Là, vraiment, ils étaient agressifs.
Exactement. Donc là, c'était voilà, il y avait l'agressivité, il y avait l'intensité. Je trouvais que les idées dans la promo, les petites punchlines étaient bonnes. Peut-être un petit peu desservies par la longueur. C'était assez long quand même. On avait assez vite compris où ils voulaient en venir quand même. Donc c'était assez long. Par contre, ça leur a permis de développer une petite dynamique propre à eux parce que autant tu vois genre bon bah chaque équipe maintenant je trouve a un petit peu vraiment un caractère de promo assez marqué. Le Rusev Day avec leur chant et leur côté un peu over. Les Usos ont un type de promo qui est totalement à eux, qui est quasiment inédit, de façon de quasiment de crier, de rapper leurs promos et tout, qui sont assez dingues. Et là, du coup, Chad Gable et Benjamin ont développé un petit style, un peu avec ces côtés un peu comiques de répétition usant, là, quand ils se reposent toujours la même question et du coup, là, qui font leurs petites blagues. Je trouve que voilà, ça leur a permis en tout cas de poser un peu leur personnalité, donc c'était pas mal. Et puis bah après, écoute, les échanges avec Daniel Bryan sont cool. Surtout que voilà, Daniel Bryan en ce moment, bah finalement, s'il y en a un qui commence à devenir peut-être un peu instable, et on verra qu'ils en parlent un peu après en backstage, c'est bah, Daniel Bryan. En 2 semaines, il book un peu des matchs sur des coups de tête comme ça, sur en attrapant une phrase à la volée, il dit ah tiens, bah on va faire un match. Et puis bah là, faut quand même pas oublier qu'il accorde une opportunité de dingue quand même en pay-per-view à une équipe de heel. Qui a perdu, ils ont beau tourner le truc dans tous les sens, d'une certaine manière, ils ont perdu à la régulière la semaine dernière. Ils ont perdu, ils auraient pas dû faire le tomber, ils se sont fait battre dans la foulée. Daniel Bryan vient leur donner un title shot en two out of three falls, qui peut tout à fait du coup désavantager les champions. Et au Royal Rumble et tout, donc c'est pas n'importe quoi. Donc il fait quand même un geste assez fort, moi je trouve.
Ouais, alors c'est vrai, c'est marrant parce que effectivement, on peut mettre dans l'écosystème la façon dont la WWE fonctionne aujourd'hui. C'est un comportement heel de faire ce qu'a fait Daniel Bryan, alors qu'en fait c'est hyper logique et c'est plutôt bien foutu, toi. Ce sont
Oui.
des heels qui réclament, qui se plaignent, et lui rebondit sur une de leurs phrases pour leur dire ah ouais d'accord, et ben dans ce cas-là, vous allez faire ce match-là avec cette stipu. Donc c'est assez intéressant à analyser.
Moi, je trouve que c'est assez malin.
Oui,
Et puis,
carrément.
et d'autant plus que, et encore une fois, moi j'aime bien la lenteur que ça prend un peu les trucs aussi, c'est que Daniel Bryan, il est spécial en ce moment, il a une attitude qui est particulière, mais il n'est pas pour autant, le turn est très très loin d'être consommé, et il ne va pas aller faire copain-copain avec Chad Gable et Shelton Benjamin, de la même façon qu'il ne fait pas copain-copain non plus avec Sami Zayn et Kevin Owens, quand ces deux-là viennent un peu lui offrir des bouteilles de champagne en backstage et compagnie et tout. Là, quand ces deux-là viennent gratter un peu l'amitié ou en tout cas se plaindre, bon, après, ils sont un peu vindicatifs là quand même, parce que Chad Gable se fout de sa gueule et tout. Bah, Daniel Bryan les renvoie quand même assez vite. Je dis, hop, 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 déjà, on va se détendre tout de suite. Donc, ça, j'aime bien. Mais en même temps, voilà, il a une attitude qui, encore une fois, va à l'encontre des intérêts de. Des champions face, ce qui est pas mal, je trouve.
Ouais, effectivement. Non, enfin, c'est là, une fois de plus, c'est une des parties qui est bien écrite concernant Shane et Daniel Bryan. Mais peut-être que finalement, c'est parce que quand ils sont pas ensemble, c'est là où ça marche le mieux, parce que c'est là où ils se concentrent un peu
Peut-être
plus
aussi.
sur leurs personnages et qu'ils sont plus en interaction avec d'autres catcheurs. Quand les deux sont ensemble, c'est parfois un peu compliqué. En tout cas, à mon goût, puisque juste après, on a une petite séquence backstage pour en finir un petit peu avec ça, où justement Shane vient se plaindre. Enfin, comment dire, Daniel Bryan est en train de regarder le match de qui c'était de. Oh, je sais plus quel match il regardait, c'était de Fandango, je crois. Oui, c'est
Bah
ça.
c'est ouais, c'est ça.
Le match de Fandango, puis il était content de la victoire parce qu'il les aime bien, etc. Puis Shen vient un peu lui chercher les noises et il lui dit bon, écoute, Daniel, tes décisions que tu prends là, c'est un peu, c'est pas, ça n'a pas trop de sens. Et puis au bout d'un moment, il fait bon, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tout va bien? Et donc là, Daniel Bryan, bon, évidemment, on n'aime pas trop qu'on nous pose ce genre de questions, parce que toi, c'est genre, pourquoi, qu'est-ce que tu me veux, quoi, qu'est-ce que tu sous-entends? L'autre, il dit, bah voilà, parce que tu deviens un petit peu instable, et l'autre, il lui dit, bah écoute, un peu, en gros, j'ai un peu les mêmes reproches, les mêmes griefs à te faire, toi aussi, t'es instable, t'as toujours pris tes décisions un peu sur un coup de tête, on ressort les histoires de famille, etc., etc. Et du coup, les deux, voilà, ne sont pas vraiment d'accord une fois de plus. Donc voilà, on continue un petit peu sur les deux. Et là, par exemple, typiquement, alors, en fait, je sais pas à quel point, quelles sont les scènes qui sont vraiment bien, qui sont scriptées avec des dialogues, et les scènes, les séquences où Shane et où Daniel Bryan ont du temps et peuvent plus improviser. Parce que là, clairement, cette séquence-là, je trouve.
Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'impro là.
Elle souffre justement, ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'impro et du coup,
beaucoup de spontanéité.
Ouais, c'est ça. Au niveau acting, c'est quand même pas les deux meilleurs du monde. Et alors, en fait, j'en demande beaucoup parce que c'est quand même le gros fil rouge et c'est la grosse storyline. Donc,
oui.
Je suis un peu plus sévère et qu'en plus, Shane McMahon, hein, voilà, ça n'a jamais été mon favori. Vraiment, là, le déficit d'acting, on va dire, il est assez criant parce que. Ils sont assez crispés, ils ont du mal à jouer ce espèce de double jeu, hein, parce que ces personnages-là ont un peu... Ils sont censés interpréter des personnages qui ont un double jeu, qui ont une idée derrière la tête et qui font un peu de politique, quand ils se retrouvent l'un face à l'autre, c'est vraiment le côté politicien, genre, c'est pas, je vais te faire en sorte de te faire dérailler toi, et, c'est pas, et moi je garde...
Ils se taclent, mais tout en restant cordiaux, tu sens que c'est... Voilà, on y va mollo et tout, faut pas franchir la ligne rouge des deux côtés, tu vois.
Ouais. Et du coup, je trouve dans ces moments-là, c'est un peu en retrait, ils ont soit le grand sourire, mais c'est pas très bien joué, quoi. Les répliques sont pas très bonnes, donc voilà, je préfère moi en tout cas les séquences où ils se lâchent un peu plus et ils se retrouvent limite, c'est quoi, ils se retrouvent face à d'autres catcheurs que face l'un à l'autre. Je trouve que l'alchimie entre les deux, elle est pas encore là parce que je pense qu'elle est hyper scriptée, que derrière c'est la storyline et que du coup ils ont pas forcément les mains libres. On va pas laisser Shane ou Daniel Bryan vraiment se lâcher complètement et il faut qu'ils fassent tellement attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font que
je suis assez d'accord. C'est peut-être un peu le problème, c'est parce que en fait moi j'aime beaucoup l'histoire parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'ils essayent de faire. Mais le truc c'est que comme on est sur quelque chose d'assez compliqué quand même ce qu'ils essayent de mettre en place avec pas mal de finesse, je trouve au niveau des deux personnages, ce côté un peu à toi à moi, j'essaie de te mettre des bâtons dans les roues, mais faut que je reste, faut que je fasse attention à mes relations, tout ça. Enfin, c'est assez compliqué ce qu'ils essayent de mettre en place un peu comme turn ou comme twist pour nous surprendre à la fin. Donc du coup, tu sens que clairement, semaine après semaine, il y a des étapes. Enfin, tu vois, les blocs se mettent les uns au-dessus des autres. C'est vraiment, on va étape par étape. Et il y a des... En effet, je suis assez d'accord avec toi que quand ils sont l'un face à l'autre, tu sens qu'ils récitent des lignes parce que, cette semaine, c'est tel développement. Donc, tac, 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 il faut qu'on fasse point A, B, C. Et puis, le reste, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, ça manque de spontanéité. Tu sens que, il n'y a pas trop d'envolée. Donc, au niveau de l'exécution, je suis assez d'accord pour dire que, en effet, c'est peut-être un peu décevant. Pour l'instant, je me rattache plus à essayer de. Parce que je trouvais ça assez intéressant, donc je suis encore assez positif, mais je vois un petit peu ce que tu veux dire, je suis assez d'accord.
Mais je suis complètement positif et je l'ai déjà dit, c'est vraiment, je trouve, cette storyline et très mature, si je puis dire, en fait, dans l'écosystème justement WWE, loin des sentiers battus de ce qu'on peut trouver avec le commissionnaire qui torture son GM du côté de Raw, par exemple.
C'est beaucoup plus blanc ou noir.
Voilà,
c'est très tac. Voilà.
Là, on est dans un truc un peu politique avec deux mecs qui se tiennent tête, qui jouent un peu sur le même... Ils sont pas aux antipodes l'un l'autre, c'est exactement les deux mêmes. En fait, c'est deux forts caractères qui ont vraiment une idée très précise, mais finalement, c'est un peu comme en politique, toi, on va se retrouver autour d'une idée, et puis en fait, au fil du temps, on n'a peut-être pas la même vision des choses finalement.
Ils sont au sein du même parti, mais avec des lignes différentes, donc ça se réglera au primaire.
C'est la gauche plurielle de la WWE.
Ça va se régler au primaire.
Exactement. Voilà, comme quoi hein, le catch, c'est la vie, on peut le rattacher à tous les domaines. Bref, alors je fais un petit retour en arrière avant le main event, si tu veux bien, puisqu'on a quand même, il faut pas que je l'oublie, la suite du tournoi US avec un match qui opposait donc Mojo Rawley à Zack Ryder, hein, les deux partenaires qui se connaissent parfaitement, et le match s'en ressent. C'était plutôt bien vu, la puissance éparpillée de Mojo Rawley qui court dans tous les sens sur sa nouvelle, sur son générique là, que tu aimes tant, là, de musique électro de Tuffer.
Oui, j'adore ça. Ouais.
Il se fait malmener par l'expérience explosive de Zack Ryder. Je trouvais que c'était pas mal que Zack Ryder ait un petit peu le dessus mental, un petit peu au début du match, où finalement il montre un peu son expérience, mais l'ancien joueur de foot est bien décidé à se débarrasser de celui qui fut le poids qu'il a traîné pendant toutes ces années. Et il allonge donc Zack Ryder d'un énorme coup de coude, qui est une prise très proche de la boots que Zack Ryder met dans le coin du ring. Ouais. Je trouve ça très bien qu'il ait un peu
version
ce...
coude.
Ouais, ouais, version coude, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et donc, Mojo Rawley continue donc son avancée dans le tournoi. Combat de regard entre Mojo et Bobby Roode, qui était là juste pour regarder le match, voilà, pour nous teaser la demi-finale. Et une promo pas contente de Jinder Mahal en vidéo qui promet donc d'aller arracher le titre US au bout du compte. Est-ce que tout ça c'est pas un peu trop mathématique, tous ces résultats, et comment il pourrait un petit peu nous surprendre sur au moins la si ce n'est la finale, le résultat, parce que tout semble couler un petit peu de source là, peut-être un peu trop.
Compliqué, ouais, compliqué cette question, parce que en fait, c'est vrai que dès l'annonce des brackets là, enfin du tableau, il n'y avait pas trop de suspense, je trouve, au niveau de au moins jusqu'à la finale. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que les résultats jusqu'à la finale sont quasiment écrits, enfin cousus de fil blanc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de te dire comment est-ce qu'ils peuvent nous surprendre, à part bah aller complètement, enfin changer un résultat, faire en sorte que Xavier Woods batte, je sais pas, batte Jinder Mahal. Et que Mojo Rawley batte Bobby Roode. Enfin, mais du coup, ça veut dire qu'au Royal Rumble, t'as Xavier Woods contre Mojo Rawley. C'est quand même pas super fun.
Oui, parce que la finale aura lieu Royal Rumble.
Royal Rumble, ouais. Donc du coup, ouais, tout porte à croire que c'est Bobby Roode contre Jinder Mahal au Royal Rumble. Beaucoup disent que Bobby Roode est l'énorme favori du tournoi.
Ça, ah bon,
je serais moins catégorique. Ce
sont des gens qui ne regardent pas SmackDown, ça.
Probablement, je pense qu'ils ont oublié à quel point le Maharaja était impressionnant dans le ring, je pense.
tu peux pas dire ça et après rigoler comme une baleine.
non, mais je suis d'accord avec ce que je dis, mais je suis pas d'accord.
Tu es d'accord avec ce que tu dis, d'accord.
Ça, c'est important, ça. Donc, du coup, compliqué de savoir vraiment comment ils vont nous surprendre, parce que l'arbre était présenté de telle manière que, en plus, Bobby Roode sortait d'une rivalité pour le titre US, et on le voyait bien y retourner assez vite, parce que la ceinture lui correspond quand même pas trop mal. Donc, du coup, ouais, compliqué. Je pense que la surprise peut plutôt venir du match au Royal Rumble et de l'après, que de ce tournoi qui, au final, est assez convenu, mais qui, moi, je trouve, a le mérite au moins de poser des rivalités annexes ou alors d'impliquer des mecs qui n'ont pas beaucoup de temps d'antenne. Donc, bon, à la limite, c'est le point positif, mais pas beaucoup de surprises là-dedans. Ouais.
Non. J'ai une question. J'ai pas regardé, du coup, le SmackDown de la semaine dernière. Est-ce qu'on a eu des nouvelles du Baron ?
Oui, le Baron, la semaine dernière, a fait une magnifique promo face caméra annonçant qu'il allait rentrer dans le Royal Rumble et qu'il allait gagner.
Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ok. Pauvre Baron. Du coup, j'en fais un favori naturel, quoi. Mais bon, je rigole. Voilà. Je suis d'accord avec ce que je dis. On attaque le main event, si tu veux bien. Donc, Nakamura, Randy Orton et AJ Styles d'un côté, Kevin Owens et Sami Zayn de l'autre. Déséquilibre. Le RKO est teasé rapidement, on s'échange des coups, jusqu'à ce que les vilains tentent de fuir sous le titantron, sous le décompte de l'arbitre. Mais une musique retentit, celle de Shane McMahon, qui n'en entend pas de cette oreille, et le match est dorénavant un no count out match. Relancez le match, baby. On relance le match, les gentils sont remotivés, mais Kevin Owens finit par attaquer avec une chaise, provoquant ainsi la disqualification et la victoire des gentils, mais Shen n'est toujours pas satisfait. Il revient et c'est maintenant un no DQ. Ring the bell, on recommence le match pour une troisième fois. Les gentils se vengent et les gentils foncent avec leurs chaises à eux pour défoncer les méchants. Là, c'est vraiment c'est l'exécution des méchants, quoi. Progressivement, on monte un peu plus dans la violence. Et là, ils se font totalement défoncer à coups de chaise, coups d'escalier. Sami Zayn qui se mange la table avec les télés. Et puis après, il se fait balancer sur le ring. Et le gros Kinshasa, RKO pour le tomber sur Sami Zayn. Victoire des gentils. Randy Orton et Nakamura célèbrent la victoire. Alors qu'on est sans nouvelles de AJ. AJ a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as noté où est-ce qu'il est passé, AJ, pendant le match?
AJ Styles, il est parti tabasser le fuyard.
Ah d'accord, Kevin.
Ouais, c'est barré en coulisses.
Ok, je l'ai pas vu ça. Du coup, je me dis, mais attends, ça la fout mal. Le champion qui célèbre pas la victoire des gentils, mais effectivement, il est parti à la poursuite, non pas d'Octobre Rouge, mais de Kevin Owens. Bon voilà, on a eu trois matchs dans ce main event avec un Shane McMahon plus impliqué que jamais.
Ah oui, mais en même temps, il faut bien que quelqu'un fasse le travail, puisque Daniel Bryan n'a pas l'air de souhaiter faire le sien, là, en l'occurrence. Donc, moi, il commence à m'énerver, Daniel Bryan. Non, bah, écoute, j'ai trouvé ça logique, dans le sens où, y en a marre. Enfin, Kevin Owens et Sami Zayn, ils sont toujours en train d'essayer de tricher ou de trouver des portes de sortie dans tous les sens et tout. Et cette fois, Shane McMahon avait décidé de pas être le dindon de la farce de cette histoire encore une fois et de pas passer pour un con. Et donc du coup, il avait prévu que ces deux-là se fassent dérouiller en handicap match ce soir. Et ben ils vont se faire dérouiller. Donc du coup, et ben il va restart le match jusqu'à ce que les mecs aient la leçon qu'ils méritent.
Ça fait vraiment genre rage quit quoi. Le mec est pas content et du coup
Sa manette. Sauf que là, il y a quelqu'un qui vient rebrancher la manette à chaque fois et qui dit « Non, tu finis !» et donc, du coup, écoute, j'ai trouvé ça sympa. Bon, ça faisait très main event de house show, comme souvent à SmackDown quand même, quand c'est des matchs à plusieurs, c'est souvent un petit peu ça.
Ouais.
Parce qu'au final, comme il y a assez peu de storyline entre les catcheurs, c'est peut-être ce qu'on pourra reprocher à cette période d'avant Royal Rumble. Comme il y a assez peu de storyline entre les catcheurs, c'est vrai que toujours ces multi-man tag team match là, comme ça, bon bah du coup c'est un grand festival et c'est généralement du feel good et des trucs comme ça. Il y a deux façons de voir les choses, hein. Il y en a qui trouvent que c'est très dommageable, on en a parlé la semaine dernière, c'est vrai que je suis plutôt de ce côté-là parce que c'est un peu la panne sèche du côté des storylines, à part l'énorme fil rouge qui prend tout, qui englobe tout, qui phagocyte tout.
Ouais.
Comme on l'avait dit la semaine dernière, ça phagocyte tout. C'est Daniel Bryan contre Shane McMahon. Au début, c'était Kevin Owens. Ça a englobé Sami Zayn. Puis ça a englobé AJ Styles. Puis maintenant, ça englobe Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Donc, ils rentrent tous petit à petit là-dedans. Donc, c'est vrai que ça prend tout. Mais comme il n'y a pas trop d'histoire autour du titre et des catchers et tout, ça donne, c'est vrai, un côté un peu... c'est la fête. Allez, on va tabasser les méchants. Et puis ça mange pas de pain.
Je m'arrête sur juste un point que tu as dit, c'est très intéressant. Tu dis tout le temps des choses très intéressantes, mais là encore plus que d'habitude. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup à un booking très, très malin d'un Survivor Series où on aurait une team Shane versus une team Daniel Bryan, sauf qu'on est très loin des Survivor Series dorénavant. Oh là, oui. Mais c'est pas cette grosse nébuleuse là qui attrape tout.
Est-ce que c'est ça le payoff à Mania?
J'espère que vous aimez Shane McMahon parce que ça veut dire que vous allez en bouffer jusqu'à la fin de l'année.
Oui, de toute façon, on va en bouffer jusqu'à la fin de l'année sans problème, je pense. Mais du coup, et donc voilà, il y a cette façon un peu. C'est le côté pessimiste de voir les choses. Puis il y a aussi de se dire, finalement, c'est peut-être pas non plus mal parce que, comme on avait pu, c'est vrai, en parler sur le forum, je trouve que c'est une remarque assez juste, on est en période de pré-Rumble et plus tu plantes des rivalités. Avant le Rumble, plus tu spoiles un petit peu et tu gâches aussi l'intérêt un peu du pay-per-view qui est si particulier, qui est vraiment le lancement de la road vers WrestleMania, et qui par exemple a pu être le cas. Alors c'est magnifique, Arrow, de voir Samoa Joe dévoiler ses cartes et dire qu'il va rentrer en rivalité avec John Cena, hein, grosso modo, hein, c'est ce qu'il a dit. Mais du coup, ça te raye d'entrée de jeu deux vainqueurs pour le Rumble. Là, ça fait des semaines que moi, j'aimerais bien voir des indices un peu. Tu vois, là, on a encore vu Randy Orton et Nakamura finir triomphant au milieu du ring à un main event de SmackDown. C'était le cas il y a trois semaines, je crois. On s'était dit, tiens, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir un petit regard en coin, un truc et tout, parce que savoir s'il va se passer un truc. Mais en même temps, si tu fais ça, bon, bah, du coup, tu les rayes tout de suite de l'équation pour le Royal Rumble. Alors que là, les deux sont tout à fait légitimes. Pareil, si tu lances... Bref, toutes les feutres que tu vas lancer, tu vas un peu gâcher ton pay-per-view. Donc, il y a aussi cette façon-là de voir les choses qui fait que, écoute, on occupe le temps avec cette grande rivalité GM, ce qui permet d'occuper plein de catcheurs, sans forcément dévoiler les cartes. Du coup, on se garde un Royal Rumble complètement imprévisible, parce que je pense qu'il est vraiment très ouvert, le Royal Rumble, cette année. Du coup, on se permet de potentiellement rebattre les cartes après.
Ouais. En fait, t'as raison. Enfin, je veux dire, effectivement, la face, c'est frustrant. C'est frustrant de se taper des semaines sans rivalité autre que le gros fil rouge qu'on nous fait bouffer, c'est frustrant, mais comme tu le dis, c'est au bénéfice d'un Rumble qui du coup va s'annoncer
très ouvert.
Du coup, est-ce que c'est pas ce qu'on veut vraiment pour le Rumble? Je pense que oui, quelque part, on veut ne pas que ce soit trop évident, les vainqueurs, évidemment. En tout cas, que t'es pas juste 5 mecs qui vont dire « voilà, c'est eux », parce que les autres sont tous occupés à faire autre chose.
Eh ouais, tout à fait.
Et surtout, le Rumble permet très souvent de créer ces rivalités qui nous auront tant manqué pendant les semaines qui ont précédé. Donc c'est vrai que c'est un peu de la disette de ce point de vue-là. Donc voilà, on s'est retrouvé évidemment avec ces gros matchs en l'honneur de... j'ai oublié son nom, là, de l'ancien GM, là, Tag Team Player.
Teddy Long
qui sera là au Raw 25e anniversaire.
Oui,
et nous en
ça va être cool, ça.
Ouais. Il va y avoir du monde là-bas, ça va être le bordel, hein, tous ces vieux qui vont débarquer.
Ça va, apparemment, ça va durer 5 heures.
5 heures, aïe, ok, dont 15 minutes de Power People, John Laurinaitis, là.
c'est pour tout placer tous les caméos et tout, ouais, je pense qu'il va bien falloir ça. Hein.
Bon, allez, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien. Giscard, peux-tu nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode de SmackDown, s'il te plaît?
Ok, c'est parti. Mon flop, moi je l'aurais bien donné aux filles dans leur ensemble qui semblent avoir oublié qu'il y a une ceinture d'ailleurs dans la division, comme l'a fait très justement remarquer François sur le chat. Ça pourrait les occuper, mais non. Je l'aurais bien mis à eux, mais en fait,
on a dit que
facile.
C'était. Qu'en fait, tant qu'il se passait. Tant que ça repartait pas dans le bon sens, c'était inutile de gâcher un flop sur la division féminine.
Donc du coup, mon flop, en fait, je vais le mettre à la personne qui a designé l'entrée de Mojo Rawley, parce que sa nouvelle entrée, moi, ça ne va pas du tout. Bon, c'est très cosmétique, hein, comme commentaire, mais j'ai du mal à le voir percer avec cette entrée à la con là. Sa musique de disco sous coke là, et puis son entrée où il fait semblant de sprinter comme un footballeur américain vers le ring, et puis il rentre et puis il en ressort tout de suite. Je trouve ça assez ridicule. Donc du coup, je vais lui mettre mon flop. Mais au-delà de ça, il avait fait un... Je trouve qu'il tient un truc dans le niveau agression dans le ring, c'est pas mal quand même. Mon top, je vais le donner à qui mon top cette semaine. Je pense que je vais le donner à Chad Gable, tu vois, mon top, parce que c'était une belle promo qui nous a sorti. C'était une belle promo qui était assez importante. Voilà, ça fait partie. Souvent, je parle des promos assez clés dans les storylines ou dans les carrières des catcheurs. Quand ils souvent à l'aune d'un heel turn ou du début d'une grosse storyline, il y a toujours des promos un peu fondatrices. Et celle-ci était assez importante et je trouve qu'il ne l'a pas loupée. Donc c'est une marque de maturité, je trouve, au niveau de du catcher solo qu'il est en train de devenir. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, top pour Chad Gable. Sinon, pour la note, je vais être un peu sévère par rapport à tous les bons points que j'ai donnés, c'est vrai, pendant l'émission. Mais je vais donner que 2,75 cette semaine. Un peu en dessous du 3 que j'aurais voulu mettre au début. Mais en fait, je regrette un peu... ce qu'on a dit qui était peut-être un mal pour un bien, mais c'est vrai que pas l'impression que, à part cet énorme fil rouge, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose à SmackDown. Enfin voilà, je ressors pas de l'émission avec des questions plein la tête ou des trucs. Je me dis en effet que les développements des GM là, c'est assez intéressant, mais au final, ce tournoi US est très convenu. Les filles, ça se passe, il se passe rien. Le main event n'a pas apporté grand chose. Bon, et puis on n'a pas eu du catch quand même de dingue cette semaine. Donc voilà, écoute, je suis pas transcendé par cette émission.
Ouais. Bah écoute, moi ma note sortira aussi, je la dévoile tout de suite, c'est le fameux 3 que tu n'as pas osé mettre, et bah moi je le mets, mais bon, ça se tient là, quoi, on est dans la même gamme de prix, si je puis dire, j'ai les mêmes griefs que toi, j'ai le même top que toi, pour moi c'est Gable, il a tout déchiré, cette promo elle est fantastique, d'ailleurs je tire également mon chapeau à Benjamin qui arrive à tenir la cadence, qui n'est pas évident parce que, il joue le rôle du vétéran et le petit jeune,
ouais,
il faut suivre la cadence du petit jeune car Gable il a les dents mais longues, hein, il veut y aller et finalement Gable d'un côté et Jordan de l'autre, ils s'en tirent pas mal, hein, vu comment ça s'était déroulé.
Exactement, écoute, contre toute attente, Jason Jordan tire son épingle du jeu plus qu'il n'en faut. Et Chad Gable, tu fais bien de le dire, c'est ce côté un peu vétéran et jeune aux dents longues. Je trouve que ce soit in kayfabe ou hors kayfabe, c'est assez intelligent. Enfin, vraiment, tu sens que la volonté, c'est de faire de Chad Gable la star de l'équipe. Enfin, c'est vraiment le focus, c'est toujours sur lui. Jamais Shelton Benjamin tire la couverture, que ce soit dans les matchs. C'est toujours Chad Gable, la star, avec ses démonstrations de puissance et tout. Et au micro, c'est toujours Chad Gable qui prend le lead et tout. Parce que vraiment, on sent que la volonté, c'est de faire quelque chose avec lui et ça me plaît.
Ouais, ça me plaît aussi. Et mon flop, je le donne à Renee Young parce qu'elle avait pas à revenir là avec ses fauteuils et son interview de journal.
Presse à scandale.
Presse à scandale ridicule qui a mis tout le monde à l'aise, y compris AJ Styles, qui l'a forcé à faire de la langue de bois. Et ça, on n'aime pas ça. Alors, catch up, évidemment, vous pouvez nous retrouver toutes les semaines pour nos analyses, nos grosses analyses des weekly, Raw, SmackDown. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Combien de temps il nous reste avant le Royal Rumble ?
Eh bien, écoute, le Royal Rumble est dans un peu moins de 2 semaines maintenant, donc il ne nous reste plus qu'un SmackDown à couvrir.
Un SmackDown ? Plus que le Go Home Show, déjà ?
Ah, attends, c'est le week-end du 21-22 ou du 27-28, le Royal Rumble ?
Je pense que c'est le 28. Il resterait
2 SmackDown.
Alors.
Ah oui, tu as raison.
2 SmackDown, et bien ça va vite, très vite, peut-être trop vite, on ne sait pas, mais on est pressé d'y être aussi comme le Rumble qui s'annonce effectivement riche en suspense.
Très ouvert.
Très ouvert, puisqu'en plus on en aura deux. Et d'ailleurs, un jour on aura des Rumbles pour les tag teams, on aura des Rumbles pour la division Cruiserweight, on aura division.
Pas de raison.
Il n'y a pas de raison après tout. vous pouvez nous retrouver évidemment sur PodCloud, iTunes pour l'audio. Hein, si vous êtes comme moi, vous aimez écouter Catch Up en allant chercher les gamins à l'école ou en allant au boulot parce que votre patron vous a demandé de terminer de clore ce dossier.
Votre footing, par exemple.
Ou pendant votre footing après le taf parce que votre patron vous a cassé les bonbons et du coup il faut évacuer. vous pouvez également nous retrouver sur YouTube si vous préférez cette plateforme fantastique de vidéos.
Pas pendant votre footing, c'est un peu dangereux.
Malheureusement, tu sais, hein, c'est un petit peu comme ça maintenant. On fait des.
Ou alors avec une perche à selfie, tu regardes comme ça et tu cours en même temps, je sais pas.
on fait bien des pistes pour les gens justement qui regardent leur téléphone. Là. Je crois que c'est au Japon.
Ah ouais.
Comme ça, ouais, ils ont des sur les trottoirs. On me corrigera si c'est pas au Japon, mais
génération connectée.
Ouais, tu as comme tu as des pistes pour les vélos, maintenant tu as des pistes pour les gens qui sont sur leur téléphone. Voilà, parce qu'ils regardent pas devant eux, évidemment. Twitter, Facebook, Catch-up, CDC, évidemment. N'hésitez pas à partager votre top, votre flop et votre note dans la section commentaires de la vidéo YouTube. Partagez, notez, poussez, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez pas, vos premiers pronostics, pourquoi pas, si vous avez déjà une petite idée pour le Royal Rumble. C'est le moment ou jamais.
Est-ce que les vainqueurs sont à SmackDown ?
Ça, c'est déjà une bonne question.
Et ouais, parce qu'on nous taunte à Raw, là, oui, c'est pour Raw, c'est pour Raw, chez les filles, c'est pour Raw, chez les mecs, c'est pour Raw.
On verra. Effectivement, dites-nous si la team bleue est candidate pour aller chercher cette fameuse victoire ultime. Est-ce que c'est SmackDown qui va passer Raw par-dessus la troisième corde ? Nous le verrons dans 2 semaines. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut tout le monde.